Chemin faisant. À la découverte des parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Regard croisé sur des résidences de recherche et création dans 6 parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Chemin.
En partenariat avec la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Musicienne, écrivain, écrivaine, mais aussi sociologue, danseur et danseuse, chercheur en sciences sociales.
Chemin faisant.
12 radios dans 6 parcs vont à la rencontre de leur travail.
Bienvenue sur donc, le plateau du Vercors qui compose donc, un élément de ces 6 résidences. Chemin faisant avec donc 3 radios hein, qui ont suivi pour la partie médiation ces différents projets pour la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes des radios FM non commerciales. Et pour ce qui concerne le Vercors, 3 radios sont concernées avec Radio Divoix, incarnée par Yves, juste à mes côtés.
Bonjour.
Bonjour Yves. Radio Saint-Ferréol pour la partie technique. Merci à Romain, un grand bonjour. Et puis naturellement Radio Royan, Vercors. Avec aussi la présence de Rachel qui œuvre à Radio Royan Vercors et puis également moi, Patrice, et tous nos invités. Merci à celles et ceux qui ont eu la grande aimabilité de venir à Vassu. On a un beau temps qui nous accompagne aujourd'hui, c'est fort agréable et qui facilite les choses pour rejoindre le musée de la préhistoire, à qui on apporte un grand merci, à Didier Lalande qui nous a reçus avec beaucoup de confort et de convivialité. Chemin faisant donc à la découverte des parcs naturels régionaux, des différentes résidences qui s'y sont opérées depuis quelques années. Peut-être une synthèse avant de retrouver ce qui fait acte de restitution à travers un podcast qui a été confectionné par Anthony Péqueux, de faire déjà un tour de table pour découvrir eh bien, qui va œuvrer durant cette heure pour cette restitution, puis un certain ressenti aussi des actions qui ont pris place au sein du parc naturel régional du Vercors. Eh bien, on commence tout d'abord avec vous, Marie-Odile.
Donc, Marie-Odile Baudrier, moi je suis vice-présidente chargée de la culture, de l'éducation et de la participation citoyenne au parc du Vercors.
À vos côtés aussi pour vous prêter main forte, hein, si je veux dire, pour des aspects techniques.
Eh bien, bonjour, Jamilia Bazoj, moi je suis responsable du service éducation, culture et participation citoyenne du parc du Vercors.
Également à cette table, merci aussi à vous, Anthony Péqueux, qui avait fait un grand déplacement pour nous rejoindre.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, un grand plaisir d'être là. Et moi, je suis sociologue, je suis chercheur au CNRS, au centre Max Weber, qui est un laboratoire à Lyon. Voilà, un grand plaisir de se retrouver ici.
Après quelques temps aussi de résidence, on le verra plus en détail. Et juste en face de vous, Anthony, un artiste qui a participé aussi bien activement à ces projets.
Donc, moi, je m'appelle Emmanuel Rousseau, je suis musicien et j'ai participé à un projet en coordination avec les parcs qui s'appelait Chemin à ciel ouvert. Voilà, pour lequel on a produit un disque vinyle.
On a d'ailleurs toute une déclinaison, hein, chemin faisant, chemin à ciel ouvert, balade à ciel ouvert. On essaiera de préciser tout cela au cours de cette émission. À noter que les prises de parole sur ce plateau s'alterneront avec des extraits d'interviews ou de captations effectuées durant le déroulement des projets ou plus récemment aussi en termes de ressenti des actions. On vous propose pour ouvrir cet espace chemin faisant un podcast réalisé durant donc la résidence bilan de Anthony Péqueux et de Marianne Villers. Mais pour l'heure, juste peut-être un petit rappel chronologique très synthétique entre 2019, qui fut le lancement des opérations des projets artistiques scientifiques sur le parc, jusque maintenant. On peut dire que ça fait presque partie aussi aujourd'hui de cette restitution et du projet dans sa globalité.
Oui, donc effectivement, tout un travail de plusieurs résidences à hauteur de 4 qui s'est mis en place depuis 2019 sur le territoire, itinérant sur le territoire et justement qui interrogeait les cheminements, les nouvelles formes d'itinérance artistique sur les territoires et qui a donné lieu à une première résidence en 2019, accompagnée par l'artiste plasticien Dimitri Vazensky et la chercheuse anthropologue Chiara Kirchner, donc autour du site de Combes-Laval, autour d'une découverte de ce territoire, de recherche sur les parcours et usages de ce lieu qui est aujourd'hui un espace naturel sensible. En 2021, le territoire a accueilli le chorégraphe et danseur Franck Micheletti et l'anthropologue Chiara Piai, qui sont allés explorer un site autour de l'itinéraire de randonnée pédestre du Fil de la Bourne, plutôt au niveau du cirque de Bourguignon, en invitant des habitants, acteurs du territoire, à regarder différemment le territoire en usant de leur sens et notamment de leur rapport au corps dans cet environnement. Cette deuxième résidence s'est poursuivie, comme le disait Emmanuel Rousseau, par un travail de création avec ses compétences et ses qualités artistiques et celles de l'artiste Maria Rossi autour de ce dispositif qui s'est appelé « Chemin à ciel ouvert » avec la création d'enregistrements sonores, compositions à partir des sons de la nature. Et puis, pour clore cette série de résidences, ce sont les deux artistes Anthony Péqueux et Marianne Villers qui sont venus sur le territoire avec leurs appareils de prise de son et leurs regards scientifiques pour pouvoir compiler un certain nombre de prise de son, prise de regard, de recul sur ces travaux qui a abouti sur la création de podcasts appelés Podcasts sur place qui ont été également réalisés sur d'autres territoires puisque cet ensemble de résidences n'a pas fait uniquement dans le Vercors mais sur quatre autres parcs également.
On retrouvera d'ailleurs le côté, juste après le podcast, le côté assez singulier de faire une restitution par le son. Anthony, vous voulez bien juste en quelques mots présenter, peut-être donner une introduction au podcast avant qu'on le diffuse ?
Oui, ben, à la suite de ce que disait à l'instant Jamila, il y avait donc pour nous, vis-à-vis de la DRAC et vis-à-vis des différents parcs, un enjeu donc de revisiter en quelque sorte hein, les lieux qui avaient été arpentés par les différentes résidences de recherche-création qui nous avaient précédés. Il y en avait eu trois, hein, dont une qui n'était pas passée par le Vercors, mais qui était quand même passée par les autres parcs. Il y avait six parcs en tout. Donc voilà, un enjeu de revisite et puis en même temps de création d'une nouvelle recherche-création. Donc avec Marianne Villiers, qui avec qui j'avais déjà eu l'occasion et le plaisir de travailler auparavant, on a essayé de mixer, de mélanger nos disciplines, sociologie, approche artistique, de les mixer le plus possible pour arriver à un résultat qui soit véritablement, en tout cas ce qu'on a essayé, une recherche-création et qui soit dans l'indistinction un petit peu entre ces éléments-là et qui effectivement, vous allez l'entendre dans quelques instants avec l'épisode consacré au Vercors, à Saint-Julien-en-Vercors, qui mixe des descriptions factuelles, on reconnaît en quelque sorte Saint-Julien, qui mixe des éléments qu'on va apporter, par exemple la lecture d'un article de la revue de Géographie Alpine, un article un petit peu ancien qu'on a été déterré, qui mixe également des éléments plus fictifs qui vont venir s'insérer et qui vont venir apporter un autre regard, quelque chose de non réel, et voilà, on a essayé de que ce soit un tout, et maintenant ça va être aux oreilles des auditeurs d'y être confrontés et d'y reconnaître ou pas un tout.
Sans plus tarder, donc Point d'eau, le 12 juillet 2022 à Saint-Julien-en-Vercors, podcast Horaspitalité, hein, c'est son intitulé, c'est ce qui fait le lien entre tout ce que vous avez fait sur les parcs régionaux.
C'est ça, avec une problématique donc générale autour de l'hospitalité, de ces places qu'on a, sur lesquelles on s'est arrêté, et dans la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes.
Point d'eau, Saint-Julien-en-Vercors, parc naturel régional du Vercors. 12 juillet 2022, 913 mètres d'altitude, temps caniculaire, 14 heures. À l'arrivée dans ce village rue, un jeune cycliste s'asperge d'eau à la fontaine qui borde la route et organise autour d'elle une petite place. Il demande la direction de Lens, la direction d'une boulangerie. Trois motos viennent faire une pause devant le café en face de la fontaine. Le temps pour eux de laisser passer deux voitures et de se coordonner moteur allumé à l'ombre du café et de repartir une fois la décision prise. Depuis l'église, un coup de cloche clair, distinct, seul, juste le temps de son propre écho. De part et d'autre de ce coup de cloche, la fontaine s'écoule et ne s'arrête que quand un moteur vient la recouvrir. Un écoulement régulier, rythmé de la fontaine, qui par contre disparaît au moindre événement, comme si la fontaine était invisibilisée, plutôt insonorisée.
La fontaine est un octogone composé de deux robinets qui figurent une route parallèle à la départementale. L'un des robinets dirigé vers Saint-Martin-en-Vercors, l'autre vers Villard-de-Lans. 1876, dit une gravure au-dessus d'un robinet. Eau potable, dit une planchette de bois sur le côté. Un second octogone lui fournit une sorte de margelle qui la sépare du village, un seuil d'entrée. Des pots de fleurs de couleurs vives, violet et orange d'un côté, jaune et rose de l'autre, garnissent les entours des robinets. Au sol, côté Saint-Martin, un rectangle de peinture blanche avec croix interdit tout usage sur le double de sa surface, place à un éventuel camion de pompier. Cela affirme son importance et souligne ce qu'on peut ou non faire avec elle, ce qu'elle autorise ou interdit. Les véhicules font le tour de l'église de l'autre côté de la route. On ne fait pas le tour de la fontaine comme on fait le tour de l'église. La fontaine est centrale, mais maintient ses distances. Elle ne programme qu'un usage interne, se renouveler continuellement, et un usage externe, boire, se servir. Les guêpes, les abeilles l'ont bien compris et se sont donné le mot. L'eau est potable, il faut en profiter. Et les fleurs autour permettent de butiner entre deux lampées. Seuls autres acteurs de cette place au milieu du village-rue, l'ombre et le petit vent qui l'accompagnent. Un portail qui s'ouvre en un son de lourd élan métal, une poule au loin, quelques rares oiseaux, comme si la sieste s'allongeait, laissant toute la place à la fontaine.
Nous quittons cette place point d'eau pour prendre un sentier vers Moulin-Marquis, une source d'eau dans une grotte. Le cours d'eau a un tracé d'une trentaine de mètres avant de se jeter en cascade à travers une falaise de près de 450 mètres pour rejoindre le Bourgnion, son cirque et les gorges de la Bourne. Sur place, nous nous postons au pied de la chute d'eau avant de revenir vers la source. Les motos vrombissent dans les gorges de la Bourne, au loin, tout en bas. Ces motos, sporadiques malgré la saison, sont les seuls à signaler que l'espace derrière les arbres est une vertigineuse et immense ouverture, visuelle, sonore. Une famille, les deux parents, une fille d'environ 8 ans et un chien, donc une famille, est là, de l'autre côté de la source. La petite fille déplace des grands morceaux de bois. Les parents sont assis tranquillement. Le chien circule gaiement entre les membres de la famille.
La remontée vers la source fait éprouver, à chacun des 30 mètres ou presque, une différence d'ambiance, vers plus de frais, plus d'ombre, plus de mousse, moins d'écoulement et moins de bruit. Aussi, vers moins de morceaux de bois et plus de cairns qui sont innombrables dans la grotte. À une dizaine de mètres de la source, l'écoulement de l'eau est un peu plus heurté, comme arrêté par de fourmillants cailloux verts de mousse. Toutes les couleurs sont présentes ici en mode nuancier. Nuancier de vert et marron de la végétation, mais aussi, dès qu'on lève la tête ou change de focale, nuancier de blanc, gris, beige de la pierre, nuancier d'un ciel pur de juillet, dont le bleu ne se laisse deviner que quand on met la tête complètement à l'envers, sans compter les odeurs, mélange de vase douce et de terre humide. Nous reprenons le chemin en direction de Saint-Julien-en-Vercors et en profitons pour relire le compte-rendu établi par Jean Loup dans la revue de géographie alpine numéro 57 du congrès sur l'hydrologie karstique du Vercors qui s'est tenu à Grenoble, à l'Institut d'Olomieux, le 16 novembre 1968. Les problèmes du bilan de l'eau ont été abordés par plusieurs conférenciers, et d'abord celui des précipitations en Vercors. Le nord et l'ouest sont très arrosés, le sud les moins. Les pluies augmentent-elles avec l'altitude ? Monsieur Guyot a suggéré que l'altitude ne pouvait être qu'un facteur apparent de la pluviométrie. Cette prise de position a suscité un débat assez vif qui n'a pas abouti à une conclusion.
Sur ce chemin du retour, nous découvrons des cairns qui indiquent sans doute le village. Nous comprenons au fur et à mesure que ce n'est pas tant le village qu'ils indiquent, mais l'office du tourisme. Suite de la lecture et conclusion bilan du colloque. En somme, le Vercors est un massif troué de cavités et de galeries comme un gigantesque emmental, pour reprendre l'expression du doyen Moret. Mais c'est un karst doté d'un faible pouvoir de rétention. Le rôle des nappes, ne se manifestent que pendant les pénuries. Et il est probable qu'elles sont alimentées principalement par la fonte des neiges et subsidiairement par les grosses averses, les petites pluies étant sans effet notable. Ce colloque sur le karst du Vercors n'a certes pas résolu tous les problèmes. Il a apporté quelques solutions et il en a fait entrevoir d'autres.
La lecture se suspend au profit d'une observation plus minutieuse des cairns qui font office de poteaux indicateurs. Car il ne s'agit plus d'un amoncellement de pierres auxquelles les marcheurs et marcheuses pouvaient ajouter au sommet une pierre plus petite à leur passage. Ici, désormais, les cairns sont fixés d'une seule pièce en plastique recyclé. Il paraît qu'il brille la nuit lorsqu'on passe à proximité. C'est ce que promet du moins le petit logo d'ampoule allumée apposé sur chacun. Après l'office du tourisme, les cairns nous ramènent sur la place Point d'eau. Nous nous installons au bord, sur des sortes de plots face à face, chacun d'un côté, pour observer l'espace depuis des perspectives différentes. Au centre de ce losange d'attention, au centre de la place, on peut voir les fondations d'une fontaine. Un distributeur d'ombre et d'eau y a été installé. Il semble assez récent, neuf même. Le bitume autour a l'air frais, ou plutôt chaud, avec son noir intense et cette odeur caractéristique de bitume liquéfié.
La soif, du coup, a une odeur de soleil et de goudron. Le distributeur ressemble à une pompe à essence avec un tuyau. Pour disposer du pistolet, il faut activer un code disponible à l'Office du tourisme. C'est aussi le cas pour obtenir de l'ombre pendant une certaine durée. Un temps limité, mais la possibilité de choisir sa nuance d'ombre. Et de quoi modifier l'ambiance lumineuse et la température sur place. Parce que les arbres poussent trop lentement, surtout avec les températures folles de ces derniers étés, parce que les problèmes de l'hydrologie karstique du Vercors n'ont pas encore tous été résolus, les municipalités s'équipent de plus en plus de ce genre de dispositif.
Clic, clic, eau ou ombre. Sur place, l'été, se servir et partir refait.
C'était Point d'eau par Antoine Péqueux, qui fait donc office de petite pastille sonore bilan restitution pour les projets du parc du Vercors chemin faisant. Une petite réaction à chaud juste avant d'aborder le côté que Yves va présenter en ce qui concerne l'aspect un peu fusionnel artistique et scientifique. On était dans votre commune, Marie-Odile. Il semblerait qu'il y ait un aspect assez, on peut dire, un petit peu décalé. Hein. C'est après l'écoute, on se demande au début si c'est un peu du lard ou du cochon. Et puis finalement, on s'aperçoit que Anthony s'est quand même bien amusé à donner de la fiction dans tout ça.
Oui, il y a quand on écoute ce podcast, au début, on retrouve une ambiance réelle de Saint-Julien-Vercors, l'été, quand il fait chaud. Et puis, petit à petit, on va vers la fraîcheur, vers ce qui est la cascade de Moulin-Marquis, que beaucoup de touristes et puis d'habitants du Vercors connaissent, un lieu de fraîcheur très agréable. Où il y a une résurgence, voilà, où il y a toujours de l'eau, même en été, voilà, quand il fait très chaud, très sec. Et puis c'est vrai qu'on est ensuite, moi personnellement, quand j'ai entendu ce podcast, j'ai pas compris qu'est-ce que c'était ces poteaux en plastique, recyclés, cet office de tourisme à Saint-Julien-Vercors que je ne connais pas. Donc là, on a basculé dans quelque chose qui n'est plus du réel, qui est de la fiction. Nous, le parc du Vercors, nous sommes beaucoup de choses, mais en particulier, nous sommes un lieu d'expérimentation. Donc, on a expérimenté là une sorte de, peut-être, moi j'appellerais ça dystopie. Voilà, c'est assez amusant et ça interpelle.
C'est un petit peu décalé, effectivement. Mmh. On se rend bien compte que le parc du Vercors n'a pas forcément les mêmes optiques des fois du tourisme où ça clignote. C'est donc un petit côté un petit peu poil à gratter pour le parc du Vercors, la fin du scénario. Dire aussi que bien il y a différentes approches dans ces combinaisons qui ont maillé ces quatre années de résidence. Nous allons voir ça avec Yves.
Anthony Péqueux, vous êtes chercheur et sociologue au sein du CNRS. Quelle est pour vous votre implication au sein de cette organisation avec ce partenariat et le Vercors pour cette restitution? Quel est l'intérêt du CNRS peut-être dans cette démarche?
Alors, c'est une collaboration déjà depuis plusieurs années avec la conseillère à l'ethnologie, notamment Marina Choliac, hein, conseillère à l'ethnologie de la DRAC, direction régionale des affaires culturelles, donc en Rhône-Alpes à Lyon, qui est ethnologue et avec qui je travaille depuis des années, que je retrouve encore demain sur un autre colloque à Lyon sur le sonore. Et donc c'est une collaboration qui fait que on s'est retrouvé. Enfin, elle m'a contacté pour réaliser cette résidence qui serait un peu une résidence bilan entre guillemets. Bilan des trois résidences qui avaient précédé dans les différents parcs, hein, ce que je disais tout à l'heure, et donc l'envie de répondre à cette demande de Marina Choliac, avec aussi l'envie de travailler et de faire avec Marianne Villière, avec qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler, et d'avoir cette fois-ci la possibilité de faire une recherche création en commun tous les deux. Et donc ça, on tenait beaucoup à avoir cette part de bilan, mais aussi avoir cette part de créativité et de recherche, de quelque chose de nouveau, de pas se contenter de revenir sur ce qui a été fait, mais aussi de proposer quelque chose, hein, qui mixe nos différentes disciplines, nos regards, et qui en même temps mixer, voilà, essayer de prendre au sérieux, c'est-à-dire le mélange, là où ce n'est pas Marianne qui apporte du fictif et moi qui apporterai des descriptions du réel en quelque sorte, mais de prendre au sérieux avec Marianne qui a fait beaucoup de lectures sociologiques, moi qui est expérimenté des formes d'écriture que je n'expérimente pas dans ma pratique professionnelle. On a essayé de prendre ça le plus au sérieux possible, d'avoir une problématique commune sur les six parcs et d'essayer de décliner ça un petit peu localement, quoi.
On peut préciser, Marianne Villière, artiste dans quel registre?
Alors Marianne, elle a plusieurs registres. Elle fait pas mal de performances. Elle a créé par exemple des files d'attente. Elle a d'autres registres qui sont plus plastiques. Donc elle a une artiste contemporaine avec une multitude de registres, comme on peut la voir. Notre précédente collaboration était une intervention dans l'espace public aussi. On a cette problématique commune, parce que moi j'ai surtout fait de la sociologie et de l'ethnologie urbaine, donc on a cette problématique aussi de l'espace public urbain. On a beaucoup travaillé ensemble aussi sur ces notions-là. Donc on a vu en tout cas l'intérêt de revenir sur ces résidences qui avaient une problématique commune, les résidences qui ont précédé, qui étaient chemin faisant. Chemin à ciel ouvert. En tout cas, il y avait une volonté d'aller notamment du côté des parcs sur les différents chemins et chemins de randonnée. Et nous, on a vu aussi l'intérêt de prendre au sérieux cette problématique du cheminement pour la contourner en quelque sorte, faire un petit pas de côté pour aller du côté, on a appelé notre création sur place. Nous, on s'est arrêté. Là où les autres cheminaient, nous, on s'est arrêté un petit peu à la croisée des chemins sur les différentes places dans les six parcs qui pouvaient être des places assez caractéristiques, déjà des résidences où étaient passés les artistes et les chercheurs précédents, qui étaient des places qui étaient véritablement à la croisée de différents chemins de randonnée qui pouvaient donc accueillir. Et c'est là où cette question de l'hospitalité était également centrale, des places qui pouvaient accueillir les différents chemins et qui se présentaient comme des espaces d'hospitalité. Pas. En tout cas, c'était un petit peu l'enjeu, quoi, pour nous.
Vous aviez en quelque sorte un regard neuf pour découvrir un peu ces cheminements. Est-ce que vous aviez justement peut-être avant de procéder à cette performance ou du moins ces interventions ou ces créations, est-ce que vous avez arpenté le territoire ou alors vous êtes arrivé vierge?
Alors moi, j'ai eu le plaisir d'habiter pendant de longues années le petit village de Perru, qui est juste au pied du parc du Vercors, hein, au pied du col des Limouches. Peut-être maintenant, alors pas à l'époque, en tout cas, alors que différentes communes de la Raille, comme Combeauvin, est dans le parc depuis des années, mais Péru n'y était pas jusqu'à présent. Alors, mais je ne connais pas la nouvelle configuration parce que je viens de déménager l'été dernier. Je connaissais déjà le Vercors et du fait d'habiter là aussi, du fait d'avoir commencé, je connaissais un petit peu de résidences de vacances, etc. Je connaissais un petit peu tous les parcs à différents degrés. Ce qui n'était pas du tout le cas de Marianne qui, elle, avait un regard totalement neuf. Par contre, on a aussi pris au sérieux notre mission, entre guillemets, en nous documentant, en essayant de compulser un petit peu tout ce qui avait été créé lors des précédentes recherches-créations, lors des précédentes résidences. Donc on a contacté des artistes et les chercheurs, on a pris tous les documents qu'ils avaient pu réaliser, qui étaient très différents d'une résidence sur l'autre. Parfois on avait un rapport scientifique, alors que la demande était plutôt du côté d'une recherche-création, mais il y avait aussi un rapport scientifique, il y avait des livres, des blogs, différents types de blogs, une création musicale, il y a eu différentes restitutions très diverses, et donc nous on s'est un peu imprégné de tout ça. Ce dont on a moins pu s'imprégner, c'est la dimension de participation aussi, qui était centrale dans ces résidences-là. Participation auprès des publics locaux, beaucoup les écoles, mais pas seulement. Donc ça, c'est des expériences plutôt uniques qui ont eu lieu à un moment donné et qui ont été un peu documentées par des photos. Mais là, on a moins pu s'imprégner de cette dimension-là. On s'est plutôt imprégné des différents résultats, en quelque sorte, qui avaient pu être réalisés par les différentes résidences.
Allez, poursuivons donc avec le principe de ces résidences. Et puis, on a demandé à Alexandre Vernin, qui est coordinateur administrateur sur les trois parcs pour ses missions et qui s'est plié à l'exercice d'être didactique. C'est pas évident puisque c'est beaucoup d'éléments entourent ces projets. Donc, nous allons écouter ses explications. Effectivement, il nous détaille de manière très précise tout ce qui a été effectivement un fil conducteur depuis 2019.
Que depuis maintenant une dizaine d'années, une convention lie la Fédération nationale des parcs naturels régionaux et le ministère de la Culture. Et cette convention se décline soit par des opérations ponctuelles dans certains parcs qui lient donc les parcs et les administrations du ministère de la Culture, à commencer par les DRAC. Donc ça peut être des coopérations ponctuelles, soit à l'échelle de région, on a des programmes cohérents qui se mettent en œuvre. Et c'est ce qui s'est passé en Auvergne-Rhône-Alpes. Au début de la deuxième convention, donc vers 2017, on a commencé avec l'association des parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes et puis après d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle l'APARA. Et puis la DRAC a discuté de la mise en œuvre de cette convention dans la région et donc a commencé par la personne interlocutrice à la région, à la DRAC, est encore Marina Choliac, donc qui est conseillère ethno, et en fait avec elle, on a commencé à voir ce qui se faisait dans les différents parcs d'Auvergne-Rhône-Alpes, et on a émis un intérêt, le souhait de travailler ensemble, et sur la mise en œuvre de résidences, mais de résidences un peu particulières, de résidences de ce qu'elle appelle aussi de recherche-création. Alors la recherche-création, en fait, les résidences, on a traditionnellement des résidences de création. Donc un artiste vient sur un territoire et il crée. Bon, parfois il y a des actions de médiation avec la population, mais il est vraiment là pour créer. On peut penser par exemple à de l'écriture. Voilà, essentiellement, ce sont des résidences de création, ce sont souvent des résidences d'écriture. On a aussi des résidences d'action culturelle. L'action culturelle, donc là, l'artiste vient sur le territoire. Et il mène des ateliers avec la population. L'idée, là, c'est de partager un acte créatif entre un artiste et une population. Ces résidences d'action culturelle qui se sont développées, là, depuis 2015, de façon assez forte. Et donc, avec Marina, on a pensé à une autre forme de résidence qui associe la dimension créative, la dimension action culturelle, et puis une autre dimension qui est celle de la recherche en sciences sociales. Marina, en fait, est donc conseillère en ethno, et donc elle avait la possibilité d'accompagner, de financer une résidence de recherche en sciences sociales. On a conçu donc ce modèle d'une résidence qui se déroulait sur 4 mois, 1 mois d'immersion, et puis 3 fois 1 mois dans chaque territoire de parc, qui associe donc un chercheur en sciences sociales et un artiste. On a fait des consultations, des appels à candidature, et on s'était associé à trois parcs chaque fois. Donc il y a eu deux associations, on va dire, le parc des Bauges, le massif des Bauges, le parc du Vercors et le parc des Baronnies Provençales. Et puis une autre année aussi, il y a eu le parc du Pilat, le parc des Monts d'Ardèche et le parc de la Chartreuse. Voilà. Donc on a été six parcs à participer à ces actions. On a défini une thématique commune qui était celle du cheminement, des nouvelles formes de cheminement, des nouvelles formes d'itinérance. Et on a fait un appel à candidature. Généralement, on a obtenu entre 20 et une vingtaine de candidatures, de qualité en tout cas variable. Et après audition, on a choisi donc des équipes, un chercheur et un artiste. Donc dans nos parcs, donc il y a eu deux expériences, plus une. En fait, ça fait quatre résidences entre 2019 et 2023, on va dire. Donc première résidence s'est déroulée en 2019 avec un éditeur, photographe, écrivain, Dimitri Vazemski, et une géographe, Chiara Kirchner. Elle s'est déroulée notamment dans le Vercors autour de Combs-la-Valle et chez nous dans le secteur de Vesque, du côté d'Ulfi et dans les Bauges. En 2020, c'était les parcs des Monts d'Ardèche, du Pilat et de la Chartreuse qui ont accueilli une musicienne, compositrice et une anthropologue. Et en 2021, à nouveau, le parc du Vercors, le parc des Baronnies Provençales et le parc du Massif des Bauges ont accueilli donc un danseur, Franck Micheletti, et une anthropologue, Chiara Pierrien. Cette résidence-là donc s'est déroulée en 2021. Elle a eu une suite d'une résidence de création musicale avec Franck, Chiara et puis deux musiciens. Maria Rossi alias Kuchina Povera qui est une musicienne finlandaise et puis Emmanuel Rousseau qui est un musicien qui habite le Vercors. Et puis on a une quatrième résidence qui était plus globale à l'échelle des six parcs qui était une résidence bilan. L'idée c'est qu'on voulait pas faire un rapport classique de bilan et donc c'est Anthony Péqueux et Marianne Villière qui en 2022 et 2023 ont fait une résidence de recherche-création autour de la question du son, la collecte de sons, et c'est aussi cette résidence-là qui donne lieu à cette série de podcasts et d'émissions et de plateaux radio. Voilà. En fait, ces résidences de recherche-création, donc, elles visaient à travailler sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui se déplacer dans son univers du quotidien, dans un univers aussi, dans un territoire naturel, hein, voilà. Par exemple, sur Combs-la-Valle, ça a été la découverte de ce territoire-là, une recherche un peu aussi historique sur les parcours et les usages de Combs-la-Valle en lien avec les villages qui étaient en contrebas. Et dans les Bauges, c'était également le cas, en fait, les passages du quotidien. Donc, en fait, c'était comment on retourne sur le passé des pratiques, alors parfois plus ou moins anciennes. Et puis on va les réactiver et comment ça se passe, voilà, et comment que peut nous dire des géographes et là en l'occurrence un écrivain là-dessus. Et Franck et Chiara Piaille, donc là l'idée c'était Franck est danseur et donc son enjeu c'était comment on peut revisiter des sentiers qui existent par le biais de la danse. Du corps, de la mise en mouvement du corps dans des espaces naturels et ce que ça donne pour les gens qui le font et pour les gens qui le regardent également. Voilà, donc c'était vraiment une approche vraiment très particulière, deux approches différentes. Il y avait déjà une dimension de nouveauté et nouveauté encore accrue par le fait de travailler en lien avec un chercheur en sciences sociales. Alors, ça a donné des choses variables. Parfois, il faut le reconnaître, hein, ça n'a pas toujours été simple. Les gens ne se connaissaient pas obligatoirement longtemps avant la résidence. Il y a des territoires qui se sont saisis de façon différente de ces résidences. Par exemple, nous, dans les Baronnies, nos enjeux, c'était vraiment d'intervenir sur des résidences avec des artistes et des géographes dans des secteurs où on intervenait peu. Pour le Vercors, peut-être que Jamila pourra en parler, mais vraiment l'enjeu, il était vraiment de réfléchir et de valoriser un certain nombre d'itinéraires ou d'accompagner aussi des opérations soit d'aménagement, soit d'ouverture au public de certains sentiers, etc.
Voilà, un extrait des propos de Alexandre Vernin pour ces différentes résidences qui ont maillé le côté artistique et scientifique des parcs, et notamment celui du Vercors, avec les quatre temps de résidence qui sont aussi associés à des lieux aussi, on pourrait dire, entre guillemets, un petit peu stratégiques, puisqu'il s'agit, dans le cas de Dimitri Vazemski, Clara Kirchner, ou encore de Franck Micheletti qui a fait danser tout le monde au pied de Bourgnillon, des cheminements qui peuvent aussi avoir une perspective de transition touristique. C'était un petit peu aussi le but de faire connaître ce type de cheminement sur le Vercors. Confirmé, Marie-Odile?
Oui, je vais confirmer. Je suis allée à la représentation au fil de la Bourgne. C'était en mai 2020. Ou juin 2022. J'ai beaucoup apprécié le spectacle qui a été donné et surtout la rencontre entre donc des artistes professionnels, des musiciens, parce qu'il y avait aussi des musiciens, et puis des habitants, des associations de danseurs amateurs. Et j'avais trouvé que cette journée a été vraiment magnifique.
On peut dire une encablure de fil de la Bourne aussi qui donne un attrait de cheminement depuis Saint-Nazaire jusqu'au plateau du Vercors. Et là, le grand cirque du Bourgnillon dont on reparlera avec le témoignage de Laura qui a participé en tant qu'habitante et danseuse sur ce secteur. Des beaux tableaux chorégraphiés partagés. On va maintenant intervenir autour notamment de l'intérêt de ces différentes démarches artistiques pour le parc du Vercors.
Oui, dans un contexte d'éducation populaire et puis de la culture également, quelle est la part du public dans ce dispositif? Est-ce qu'il est aussi partie prenante ou alors est-ce qu'il est plutôt spectateur?
Alors, je vais peut-être reprendre un peu le contexte général du parc, la politique du parc, et puis Jamila complétera sur des aspects plus concrets. Pour rappeler d'abord ce que c'est qu'un parc, en tout cas le parc du Vercors, c'est une recherche sur un territoire d'un équilibre entre un territoire, son développement économique, puis aussi son patrimoine culturel. On cherche toujours, on est toujours en état d'équilibre entre le développement du territoire, développement économique, développement de son agriculture, de ses forêts, du tourisme, et puis la préservation de ses paysages et de sa biodiversité. Alors, ça, c'est vraiment le contexte général. Alors, pourquoi des résidences artistiques sont importantes pour un parc? Parce que l'objectif de la politique éducation et culture de notre parc, c'est d'amener les habitants à partager ce qu'est ce territoire, qui est un bien commun. Donc un bien commun, ça c'est l'aspect culturel de notre action. Et puis d'autre part, amener ces habitants et ces touristes et ces visiteurs à mieux connaître, à mieux comprendre ce qu'est un parc et les enjeux que porte un parc. La connaissance aussi par les habitants de ce territoire et par les acteurs socio-professionnels de ces enjeux. Et puis après, le troisième volet, c'est de mettre en relation ces territoires, tous ces aspects et les habitants du territoire. J'ai souvent dit les habitants, parce que là, le souci du parc du Vercors, quand même, c'est vraiment de rester ancré sur son territoire, sur ses institutions telles que les communes, les communautés de communes, les associations. Voilà. Et ça, c'est l'aspect troisième volet. Après le volet culture, le volet éducation, c'est aussi le volet participation citoyenne. Voilà. Alors, tout cela, ça s'inscrit dans une actualité qui est importante pour nous parce que le parc va renouveler sa charte. Un parc naturel régional, en fait, c'est quelque chose qui a une durée de vie de 15 ans et tous les 15 ans, finalement, il est remis en question. Il n'a pas une durée pérenne si, en fait, le territoire n'a pas envie que ça continue. Donc c'est vraiment une institution démocratique et qui est remise en jeu. Et là, on est depuis quelques années, depuis 2018, on remet en jeu la charte qui allait jusqu'en 2024. Et il va y avoir une nouvelle charte pour 15 ans, de 2024 à 2039. Voilà. Donc c'est un moment important pour nous. Et de faire des résidences artistiques à ce moment crucial de la vie d'un parc, c'est aussi important pour nous, parce que nous voulons faire partager à tous ces territoires, à toutes ces communes, ces communautés de communes, ces associations, le fait que nous sommes un parc parce que nous avons une culture commune. Et d'autre part, un parc, pour aller vite aussi, c'est aller aussi vers une coopération de tous ces territoires, de ces associations qui sont quand même très différents. Il y a des spécificités dans toutes les communes. Le parc du Vercors est assez étendu. Il va du nord, où on est plutôt, je dirais, un pays froid, un pays de montagne, vers le sud, où on est dans le Diwa, où on est presque en Méditerranée. Donc il y a des spécificités importantes. Et ce que l'on cherche à faire, nous, parc, et à travers la charte qui va être votée en 2024, c'est cette coopération entre tous ces territoires. Et puis autre chose que je voudrais dire, c'est que le parc aussi, un des axes de la nouvelle charte, c'est les transitions. On est dans des transitions économiques, on est dans des transitions écologiques, et on est dans un changement climatique qui est très important. Et pour nous, parcs, ce sont des enjeux importants. Et les démarches artistiques et culturelles, pour nous, peuvent aider à accompagner ces changements. Peut-être Jamila va me compléter sur des aspects peut-être plus techniques. Je m'éloigne du micro, oui, ce qu'il ne faut pas que je fasse.
Puis se retrouver dans ces différents types aussi de résidences et la manière dont tout cela s'opère.
Oui, effectivement, le parc s'appuie sur les démarches artistiques et culturelles comme levier d'interpellation des publics, de mobilisation et de sensibilisation. Et pour ça, il y a des compétences sur le territoire, en dehors du territoire, que l'on vient chercher pour justement mettre en place cette sensibilisation et accompagner les changements de comportement dans le cadre de ces transitions touristiques. Donc pour ça, les résidences artistiques sont pour nous un levier fort que l'on expérimente, que l'on regarde et que l'on suit avec un regard aussi critique pour aussi pouvoir toujours améliorer nos manières d'agir sur le territoire et de coopérer avec les différents acteurs. Donc effectivement, il y a différents types de résidences. Donc comme l'avait précisé Alexandre Vernin, et c'est l'objet des résidences dont on parle précisément aujourd'hui, donc les résidences de recherche-création, qui présentent effectivement l'intérêt majeur de croiser les approches par la recherche et de porter un regard critique analytique sur les processus de création à l'œuvre pendant ces temps de résidence et de ce que ça provoque ou ne provoque pas chez des publics, des habitants, des participants quand ils rencontrent les artistes et sont intégrés dans ces dispositifs créatifs. Donc ça, c'est un type de résidence. Un autre qui a été cité par Alexandre, donc la résidence d'action culturelle avec essentiellement des ateliers de création proposés à des participants. Donc ces dernières années, nous, on s'est moins appuyé sur ce type de dispositif qui présente pour autant bien sûr un certain nombre d'intérêts. Et puis, autre dispositif, la résidence de création-médiation. J'en cite une autre, c'est celle qui a été menée dans le cadre des 50 ans du parc avec la compagnie Traverse, qui est allée arpenter le territoire accompagnée de plusieurs artistes pour collecter des trésors matériels et immatériels perçus, vécus par les habitants, acteurs du territoire, que les artistes ont ensuite accompagnés dans des mises en scène photographiques et témoignages, et qui ont donné lieu à une exposition photographique qui aujourd'hui sert d'outil de médiation pour continuer la sensibilisation sur ce qu'est le parc, ce qu'il représente, vu et perçu par les habitants qui le constituent. Voilà un petit peu quels sont les trois types de résidences qui sont un peu aujourd'hui le socle de nos manières d'intervenir pour sensibiliser les publics, parmi d'autres approches aussi qui peuvent être plus éducatives, plus participatives et s'appuyer sur, on en reparlera après, différentes techniques d'animation, d'interpellation.
La résidence bilan, si on peut dire que c'est une résidence à part entière, la résidence bilan, Tony Péqueux, le fait peut-être avec du recul aussi de revenir un peu sur les lieux des précédentes résidences artistiques. et qui mène aussi de l'artistique et d'aspect scientifique, hein, en ce qui vous concerne aussi.
Voilà, parce que il y a aussi, il me semble, hein, une autre mission des parcs, qui est aussi une mission scientifique, qui est au cœur des parcs. Et traditionnellement, il y a une certaine séparation entre ces expertises, entre les missions artistiques et puis missions scientifiques. Et là, voilà, il y a eu cette volonté que rappelait fort bien Alexandre, avec la DRAC, avec la Fédération des parcs, d'avoir quelque chose qui mélange ces différentes expertises et qui propose aussi, c'est aussi l'enjeu, je crois, hein, de ces résidences, qui propose quelque chose à partir de ce mélange d'expertises, qui fait une proposition, alors artistique dans le cadre d'Emmanuel, artistico-scientifique dans le cadre des recherches-créations, en tout cas qui a un regard sur ces territoires en transition. Et c'est ce qu'on a à la fois observé en revenant sur les différentes recherches-créations, et c'est ce qu'on a essayé d'apporter également, Marianne et moi, typiquement, là, dans ce que vous avez pu entendre, on s'était retrouvés, on le précise, hein, temps caniculaire, on s'est retrouvés à Saint-Julien-en-Vercors, par une journée de juillet de l'été 2022, si vous vous souvenez, était un de ces étés qui reviennent de plus en plus souvent caniculaires. On s'est retrouvé face à cette problématique un petit peu d'ombre et d'eau qu'on a essayé de documenter, hein, et de mettre en scène aussi de manière fictive, pour essayer d'imaginer quels pourraient être les territoires de demain qui accueilleraient, qui prolongeraient cette problématique et qui donneraient lieu à d'autres places, peut-être, on n'en sait rien. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé aussi de proposer à travers notre regard.
On va proposer une petite expérience par la personne de Dimitri Vazemski, qui a donc été partie prenante de la première résidence. Ça nous donnera l'occasion justement d'aborder les publics ciblés par ce type d'opération. Et là, on se retrouve pour un tout petit moment, 2 minutes, mais effectivement, dans une expérience, un partage avec ces grandes lettres en rouge, hein, qu'il a porté dans la forêt, qu'il trimballait avec du public. Et là, nous sommes avec l'atelier d'alphabétisation du Centre social de La Passe, qui était aussi acteur, hein, d'une opération avec les lettres en rouge dans la forêt. Il y avait quelque chose d'assez singulier. On écoute et puis ensuite, on reparle bien des différents publics, hein, qui sont associés à ce type de démarche.
Marche qui va se faire avec des lettres. On va embarquer des lettres.
Des lettres.
Des lettres.
De l'alphabet.
L'idée, c'est d'en embarquer peut-être une par personne. Comme ça, on marche avec une lettre. Et il y a des grandes. Alors, il y a les grandes lettres qui font à peu près 60 cm. Et puis moi, j'embarque aussi.
C'est quoi ça? Moi, je veux le B, c'est ma lettre en moi.
J'embarque aussi des petites lettres. Donc là, il y a tout l'alphabet. Et puis j'ai aussi ça.
On va jouer au Scrabble.
Oh, c'est presque ça. Il faut réussir à. Il y a aussi ça que vous connaissez sûrement.
Oh oui.
Ça, c'est si vraiment on manque de lettres, on a du
c'est
renfort.
C'est
des petites pattes alphabet. Donc il y a tout ça. On va avancer un petit peu. Là, on sera à l'abri du vent, je pense, après. Donc on peut prendre le C. Qui c'est qui voulait un C?
Moi.
Il y a le C. Après, j'ai des très grandes, mais les très grandes, on va pas les prendre. Hein. On va pas les prendre. Qui veut un K? Le K. Le B pour Belinda. Et donc on est parti. Et le truc, c'est on va marcher. Et si vous avez envie d'écrire un mot, une chose qui vous passe par la tête, un sentiment, j'ai froid, j'en ai marre. Ou... Si à un moment,
beau.
Ouais, voilà.
C'est beau.
On voit rien, mais c'est beau.
Ah, j'ai envie de rentrer, ouais. Je me gonfle.
Alors ça, c'est avec les petites lettres.
Ouais. Je change mes enfants avec d'autres.
Ouais. Donc on va. Alors ici.
C'est qui veut mes enfants?
Là, le C. Voilà. Alors, on fait une petite pause ici. Tout à l'heure, il y avait le bon qui était sorti. On l'écrit ici. Et si on l'écrit où? Alors là, on reparle du Scrabble. Ce serait où le mot compte triple? Où est-ce que le mot bien placé peut avoir plus de sens
dans le paysage.
Le bon.
Le bon. Ouais.
Mettre le panneau pour dire que c'est le bon chemin.
C'est le bon chemin.
Ouais, sur le panneau, on a raison, c'est le bon chemin. Ouais.
Le bon.
Le bon moment.
Le bon moment.
Oui, allez, le bonheur. C'est
un bon endroit pour faire une petite sieste.
Il y a beaucoup d'ambiance hein, pour cette pastille réalisée donc sur l'espace naturel sensible de Combe-la-Val avec le public Saint-Jean-Royant et l'atelier d'alphabétisation du centre social.
Et voilà justement l'intervention de ces artistes. Pour vous, ça a été réellement, enfin, ça a été pour vous une nécessité de faire appel aux artistes avec leur regard, leur connaissance et peut-être même parfois de l'impertinence.
Oui, tout à fait. Oui, les artistes et les résidences artistiques nous amènent un regard qui est différent, un regard qui est décalé. Et ils amènent aussi leur approche qui est une approche sensible. Et comme le disait tout à l'heure l'intervenant, c'est-à-dire que le fait d'avoir associé dans ces résidences des artistes et des scientifiques, c'était intéressant justement parce que par rapport à la question sur les publics, on peut imaginer que voilà, certains publics peuvent être attirés par l'aspect culturel, artistique, et puis à cette occasion, bien, acquiert des connaissances scientifiques. Et puis un autre public va être plutôt attiré par le thème scientifique. Et puis à ce moment-là, il va être peut-être surpris en fait, par le côté culturel, le côté sensible. Et donc, croiser comme ça des scientifiques et des artistes, voilà, c'est vraiment intéressant et ça fait croiser aussi des publics. Voilà. Et pour continuer un peu sur les publics, on l'entendait là aussi, nous, notre but, voilà, c'est, on dit, croiser scientifiques, artistes, d'accord, croiser aussi tous les habitants, des socioprofessionnels, des hébergeurs, des danseurs, des musiciens amateurs, et puis des habitants, voilà, qui ne sont pas artistes, qui n'ont pas pour habitude, voilà, d'aller dans des concerts, d'aller voir des chorégraphies, et puis qu'à cette occasion, on peut écouter de la musique, on peut voir des danseurs, des chorégraphies, et ça, c'est vraiment intéressant, quoi, d'aller chercher ces publics-là. Et autre chose que je voulais dire, c'était par rapport aussi au public et puis aux appuis que nous avons, c'est à la fois parfois des publics et puis aussi des apports artistiques, c'est tout ce qui est association. On a beaucoup sur le Vercors, on a la chance au niveau culturel d'avoir beaucoup d'associations, de musiciens, de danseurs, de théâtre, on a beaucoup de choses. Et de les faire participer à la vie du territoire, c'est très important pour nous. On a aussi pour objectif, dans le croisement de ces publics, d'avoir pour partenaire les espaces de vie sociale. Et là, on l'a dit tout à l'heure, on a fait intervenir un espace de vie sociale du Royan, hein, dans la création de Combe-Laval, si je ne me trompe pas, Patrice. Voilà. Et puis bien sûr, quand je parle des publics, j'ai encore oublié un public qui est important pour nous, c'est aussi les touristes. Hein. Les touristes, c'est aussi un public et il faut les croiser avec les habitants et avec tout ce que j'ai présenté précédemment.
Juste, c'est une question que je ne sais pas si on la conservera, mais on parle du monde associatif hein, qui est en corrélation ou du moins participant aussi, également les espaces de vie sociale. Est-ce qu'il y a l'esprit de l'entreprise aussi qui peut être amené à être en partenariat?
Oui, alors, comme ça me vient à l'idée. Par exemple, on peut appeler une entreprise, par exemple, les grottes d'Auchorange, c'est une entreprise touristique, voilà, et elle participe, justement, en fait, Jamila, je pense, en parlera peut-être après, on a en projet une grosse résidence artistique sur 2 ans, et on va travailler avec des professionnels, en particulier, il y a les grottes d'Auchorange, hein, qui sont une entreprise qui est partante, qui est candidate pour croiser avec des artistes. Après, entreprises, les hébergeurs, hein, c'est des entreprises, les hôtels, les restaurants, voilà, ce sont des entreprises. Alors, chez nous, on n'a quand même pas, c'est pas des entreprises industrielles, hein. comme j'ai vu, j'ai entendu l'émission qu'il y a eu sur le PILA, c'était du patrimoine industriel qui était mis en avant. Bon, nous, on n'a pas, on a du patrimoine industriel, mais pas autant que d'autres parcs.
C'est là où la spécificité des parcs joue avec les publics qui gravitent autour de ce type d'opération. Mais je vous propose d'écouter justement pour une opération qui composait la deuxième résidence, France Micheletti, danseur, et Chiara Piaille, anthropologue. Et nous avons contacté très récemment Franck Micheletti, donc, qui nous donne son ressenti sur cette opération, donc a posteriori, a priori, donc avec une certaine digestion dans le temps.
C'était un projet artiste-chercheur dans les trois parcs naturels. Et l'idée étant d'être un peu aux intersections de terrains sensibles, artistiques et vivants, et dans la rencontre avec les sciences humaines, sociales, et aussi avec l'interface des environnements, évidemment. Nous, ce qui nous a passionné, c'est d'être dans la rencontre et l'échange avec différentes problématiques. De ce point de vue, c'était fort stimulant. Donc, ça peut paraître étonnant de dire qu'un chorégraphe danseur associé à une anthropologue va se retrouver en résidence sur un parc naturel régional. Et en fait, le but de ce projet, c'était de voir comment... on va dire, moi je parle de mon point de vue danseur-chorégraphe, à savoir un amateur d'espace, hein, un amoureux d'espace, et quelqu'un aussi qui a une certaine habileté pour connaître les chemins de son corps, et notamment son panorama sensoriel, comment un corps s'active pas seulement depuis des centres de décision, de volonté, la tête qui téléguiderait tout ça, mais il y a plusieurs moteurs, et notamment des moteurs sensoriels, sensibles, sensitifs, et qui sont stimulés par les environnements, hein, ce qu'on appelle le feedback. Un feedback, c'est juste un retour d'expérience de ce que font et ce que produisent, ce qu'activent les lieux que nous traversons. Donc en fait, la question qu'on est venu poser ensemble avec l'anthropologue et dans la rencontre avec les équipes du parc, c'est la question d'un geste qui soit un geste dansé, un geste en mouvement, mais qui soit surtout un geste situé, à savoir un geste qui soit en liaison et en relation pleine avec le temps, les lieux, les personnes et les rencontres qui allaient se produire. En tant que danseur et chorégraphe, je pars d'une définition assez simple, qui est celle d'un théoricien danseur américain qui s'appelle Steve Paxton, et qui dit « la danse, c'est faire des mouvements en marchant ». Donc en fait, ce n'est pas l'idée d'un spectacle, hein, c'est l'idée de finalement, en marchant, on collecte des mouvements, et ces mouvements s'activent avec voilà, ce panorama sensoriel qui nous fait vivre des choses et expérimenter des choses. Voilà, c'est cet endroit, hein, de la danse dont on parle. L'idée pour moi étant que la danse aussi est potentiellement de tous les lieux, et que selon les lieux, elle fabrique un mouvement différent. Donc chaque balade est différente, et chaque balade précise une envie de mouvement différent. Donc, les balades que j'ai faites au Vercors ont produit chez moi un enrichissement de mon vocabulaire dansé et de certains états que j'ai découverts sur le relief et sur votre terrain. C'est en cheminant, c'est en faisant et en parcourant, en foulant, en arpentant vos chemins que me sont venues ces associations et ces envies de produire ce geste, hein, c'est ça le geste situé. Et c'est l'intention aussi du bureau d'accompagnement Lowlink, basé en Savoie, avec lequel on développe ensemble ces projets. Le premier projet qu'on a fait est un projet de sentier en montagne, hein, puisque les premiers ciels ouverts qu'on a fait, c'est des ciels ouverts un petit peu plus en hauteur que chez vous. Voilà, on était à 2600 mètres. Et puis après, on a eu envie un tout petit peu de descendre et de s'adapter à différents types de reliefs. Mais quoi qu'il en soit, de garder cette idée de faire pour un lieu et dans la résonance de ce lieu précisément. Voilà un petit peu la philosophie du projet Ciel Ouvert. En 2022, on est retourné dans les trois parcs pour donner suite à ce projet avec un autre trio qui était un trio, j'étais avec une compositrice finlandaise qui s'appelle Maria Rossi et son nom de scène c'est Cucina Povera et un compositeur, musicien, arrangeur Emmanuel Rousseau, bien connu hein, de vos territoires puisqu'il habite dans le Vercors et tous les trois on a cheminé ensemble pour faire un album, un vinyle qui s'appelle Terre Légère qui a été quasi intégralement enregistré en extérieur. Il y a quelques prises qui ont été faites parce qu'elle demandait de l'électricité, quelques arrangements qui ont été faits un peu à la maison, on va dire, mais 80% de l'album a été enregistré en extérieur. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons qui produisent des résonances et des ondes et qui sont particulièrement intéressantes quand on attend et quand on affine nos écoutes. Et ça a été un petit peu le guide de cet album Terre Légère.
Et bien justement, nous allons en parler puisque nous avons Emmanuel Rousseau sous la main pour des captations sonores, des productions et puis surtout aussi le 33 tours, enfin vinyle 33 tours dont nous parlait Franck il y a un instant. Bonjour Emmanuel Rousseau, bonjour.
Bonjour Patrice.
Effectivement, vous me confiez avant cette émission que Franck aimait bien marcher. Hein.
On a beaucoup, beaucoup, beaucoup marché sur trois territoires.
Chemin faisant.
On a marché dans les Bauges, dans le Vercors, dans les Baronnies. Et on a fait surtout ça pendant nos trois semaines de résidence. Mmh. Et on a, au cours de ces résidences, évidemment, enregistré des sons, beaucoup de sons, des pistes avec de la voix de Maria, et voilà, collationné des objets avec lesquels on a fait du bruit ensuite à la maison, des pommes de pin par exemple, ou des choses comme ça, des cailloux. Et en fait, l'objet, c'était quand même un parcours sensible, et de s'imprégner en fait des territoires sur lesquels on a évolué, pour ensuite essayer de restituer à notre manière en fait cette proposition de paysage et de territoire.
Alors ce qui vous concerne, vous étiez pas seulement sur le Vercors, hein, vous avez pérégriné...
Non, on était Bauges,
voilà, c'est ça,
Vercors et Drôme.
D'accord, Drôme.
Maroni.
Avec des approches sensibles, alors c'était des fois des cadres, des on peut dire une notion acoustique qui vous a rassemblé entre Maria et vous-même.
Alors, je pense que en fait, on ne se connaissait pas au départ avec Maria. On s'est découvert pendant ses résidences. Je pense que c'était même un peu nécessaire parce qu'on ne connaissait pas nos territoires artistiques respectifs. Il se trouve que par chance, en fait, ça a très très bien matché. Dans les propositions, c'est une artiste minimaliste, donc qui travaille avec la voix et avec très peu d'éléments, ce qui nous a permis ensuite d'échanger les propositions et de construire l'album.
Et c'est dans le cadre donc d'une résidence de création que vous avez pu opérer cette création d'album.
Donc l'album en lui-même, en fait, il a été créé à distance parce que en fait, au cours des résidences, on a beaucoup enregistré. On n'avait pas du tout de temps en fait de travail vraiment musical sur des pièces. Et en fait, ensuite, on a travaillé. On a travaillé à distance, mais toujours. Mais en fait, il y a une forme de proximité avec les outils actuels qui permettent ce genre de travail.
On peut donc s'immerger dans une de vos compositions qui prend de l'altitude, si je puis dire, puisque c'est Aigle. Et puis on en reparle après.
Absolument.
Rotto per il sud, curo tuo tizio stai. Io se manco che si è la multa. Rotto per il sud. Sister,
C'était Aigle par Manu Rousseau et également Maria Rossi. Beaucoup de sources sonores hein, qui ont évolué au fur et à mesure.
Beaucoup de choses, en fait, oui, effectivement.
On peut en donner quelques-unes, des aspects sonores qui ont pu être abordés.
Le bruit des branches, des feuillages. Dans ce morceau-là, en fait, je ne reconnais pas énormément de choses qui ont été prises. Mais en tout cas, des intentions, la magnifique voix de Maria. Et puis surtout, en fait, ça, c'était l'Aigle, c'est un morceau qui relate le Vercors. À un moment donné, j'ai voulu aller enregistrer les bruits de vautours. D'ailleurs, j'avais pris contact avec le parc. Et donc, j'ai pu aller, en fait, faire quelques prises de son, malheureusement, qui n'ont pas donné grand-chose parce que ce n'était pas leur moment. Mais c'est comme ça. Et oui, en fait, ce que j'aime, moi, dans ces prises, c'est le côté organique qu'on retrouve. Et puis cette espèce de quiétude et mélangée aussi, en fait, à ces problématiques de survie, en fait. On retrouve sur nos plateaux par rapport aux espèces sauvages. C'est compliqué, je suis très très ému en entendant en fait cette piste-là, je n'entends pas tous les jours. Ça replonge un peu dans l'univers de ce moment de création qui était quand même très particulier.
Je voulais poser une question, c'est étant au musée de la préhistoire, on peut se rendre compte du silence environnant aussi de la nature. C'est aussi cette recherche du moindre son qui vous inspire également pour enrichir aussi.
Alors, je pense que le silence, c'est de la musique, effectivement. Je suis bien placé pour le savoir, pour propager l'esprit d'un John Cage, par exemple. Mais le silence et puis l'univers de Maria aussi qui est cet univers de musique minimaliste qui est du silence accompagné, on va dire, dans lequel on essaye de mesurer l'intensité de la voix, du souffle.
Voilà, ça vous a replongé, Emmanuel, dans cette résidence création avec Maria Rossi. Ça a été le cas aussi pour d'autres personnes qui ont participé à ce type d'opération. On pense notamment à Laura qui a dansé sur les tableaux proposés par Franck Micheletti. On se souvient, c'était en juin 2022 dans les Gorges de la Bourne, sous la cascade de Bourgnion. Un grand moment, souvenez-vous, Marie-Odile, avec le soleil qui illuminait les falaises et puis ces belles prairies qui étaient vraiment des théâtres à ciel ouvert. On écoute à cet effet le témoignage de Laura que nous avons enregistré il y a peu, donc justement, ce qui lui a donné aussi du recul sur cette opération.
Si je me rappelle bien, j'avais reçu un mail du parc qui annonçait ce projet. J'ai proposé la participation d'Opaline pour participer à ce projet parce que c'était une chouette expérience à faire vivre aux danseurs amateurs de l'école de Opaline. Comme ils cherchaient un certain nombre de participants sur le territoire, ils m'ont demandé de faire le tour des milieux de la danse. J'ai constitué un groupe pour faire le groupe dans la nature. Et du coup, il y avait des dates qui avaient été données de la venue de Franck pour le projet. Et du coup, j'ai dû chercher qui était disponible sur ces dates pour caler les dates les mieux, pour qu'il y ait le plus de monde possible. Voilà. Et des adultes, des enfants aussi ont participé. C'était assez varié, beaucoup d'amateurs et d'autres danseuses. Franck nous a fait des propositions, mais il laissait tout le monde assez libre d'exprimer ce qui lui venait en s'inspirant du milieu. C'était assez libre. On a essayé de danser dans plusieurs espaces. On a dansé au bord de l'eau, mais aussi dans le pré, dans le ruisseau, en utilisant les cailloux, en utilisant aussi toute la nature qui est au bord de l'eau, avec toute la mousse, ce côté un petit peu féerique qu'il y a au bord de l'eau. Du coup, on s'entraînait dans différents lieux pour voir comment nous inspirer les différents endroits, pour créer différents tableaux pour lorsque les spectateurs viendraient, les promeneurs spectateurs viendraient tout au long de la balade. Il y avait comme ça plusieurs tableaux avec des inspirations différentes selon le lieu. Il y avait une danseuse de Franck Micheletti qui est venue. Dans le groupe des amateurs, il y avait des pratiques très différentes. J'ai participé aussi à danser. Voilà, c'était assez varié. Mais au final, tout le monde s'est régalé et a passé vraiment un bon moment. Puis il y avait un bon groupe. C'était des moments chouettes pour se retrouver et danser. Je trouve ça chouette qu'il y ait des projets sur le territoire comme ça qui permettent qu'on se retrouve, qu'on se voit avec d'autres danseurs avec qui on ne se croise pas si souvent. Et puis qu'il y ait des projets comme ça pour faire participer les amateurs, ça stimule, ça fait voir des choses différentes, ça ouvre aux différentes possibilités de danse. Des chouettes moments de rencontre et on passait des moments très agréables avec les pique-niques au bord de l'eau pour les pauses.
Certains partages d'expériences entre les habitants et puis naturellement les protagonistes qui viennent avec un petit peu leur marque de fabrique s'immiscer dans le territoire pour effectivement des aspects de ce type de restitution.
Alors, pour le parc, quelle a été cette remontée de ces créations, de ces propositions? Est-ce que il y a une possibilité de continuité, d'ailleurs, dans cette prochaine charte à venir?
Oui, peut-être du coup, peut-être un petit point, un bilan, étape par rapport à, et avec un peu de recul sur ce qui a pu être, ce qui s'est mis en place sur le territoire, ce que ça a pu générer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ces quatre résidences de recherche-création ont démontré leur intérêt, notamment quant à la qualité des actions mises en place et des créations, des temps de rencontre, la qualité artistique des créations et des temps de rencontre qui se sont produits lors de ces temps de résidence sur le territoire pour les publics et qui ont eu la chance de participer. Et on en a entendu des témoignages. Donc ça, c'est une réussite indéniable. Pour autant, de notre côté, là, on interroge plutôt notre compétence et la manière dont nous, on s'est emparé de ces dispositifs en tant que parc, certaines limites qu'on a observées aujourd'hui et dont on prend note pour se dire comment est-ce qu'on avance pour la suite, comment on s'améliore. Donc peut-être on s'est interrogé sur la manière dont on a intégré ou pas ces dispositifs de création dans des dispositifs plus globaux qu'on porte, nous, parcs, sur des projets de sensibilisation à un moment donné, sur un territoire, sur un enjeu spécifique. Et c'est peut-être là qu'on pense qu'on peut progresser et comment, du coup, pour optimiser finalement la puissance de l'action artistique et culturelle. C'est-à-dire, il y a le dispositif de résidence, mais qu'est-ce qui se passe avant la résidence sur le territoire? Comment, nous, parcs, on amène les choses? Comment on travaille mieux en collaboration avec les artistes avant? Comment, pendant le temps de la résidence aussi, on collabore, on coopère, on participe de la mobilisation des participants, des acteurs, en s'appuyant sur les acteurs relais, comme les centres sociaux, les offices de tourisme, on le disait tout à l'heure. Comment aussi on communique sur ce qui se passe sur le territoire? Comment on tease un peu, on donne envie, on interpelle, on fait savoir qu'il se passe quelque chose qui va donner lieu à une création qui sera restituée à un moment donné, pour créer un peu une émulation sur le territoire. Et comment, ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que les artistes sont plus sur le territoire, que la création est là? Comment nous, on s'empare des objets artistiques et qu'est-ce qu'on en fait pour quelque part transformer l'essai et poursuivre la sensibilisation? Donc comment, avec ces objets, on poursuit, on démultiplie les effets de sensibilisation par des temps de médiation, du coup avec des objets dont on puisse s'emparer avec nos compétences qui sont les nôtres, qui ne sont pas des compétences d'artistes, pour aller poursuivre le travail sur le terrain. Donc c'est un petit peu tout ça qui nous interroge aujourd'hui et qui nous amène à réfléchir. Et puis aussi, un autre aspect important, c'est le volet plus, on va dire, scientifique et recherche de ce type de résidence. Comment nous, est-ce qu'on se l'approprie, équipe technique, équipe politique du parc? Comment est-ce qu'on le partage pour aussi orienter notre politique éducative, culturelle et la manière dont on coopère avec les artistes? Et ça, c'est encore un champ qui nous reste à explorer, je pense.
Est-ce qu'il existe une particularité culturelle sur ce plateau du Vercors?
Alors, la question n'est pas évidente. Je pense qu'il n'en existe pas une, mais qu'elles sont multiples et qu'elles sont liées à la diversité et à l'histoire du territoire, qui fait qu'on est sur un territoire très mixte en termes de population, d'histoire, de renouvellement. Je ne m'arrêterai pas à dire qu'il existe une spécificité culturelle et qu'elle est en mouvance et en permanente.
Alors, en ce qui concerne aussi le volet recherche, le point de vue d'Anthony Péqueux.
Ce qui m'a apparu là tout au long de cette émission, mais c'est aussi, ça retranscrit des débats qu'on a pu avoir avec les différents parcs depuis quelques mois. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi dans ces résidences, il y a aussi quelque chose d'interparc, d'entre les parcs. Et c'est vrai que là, on est centré bien naturellement sur le parc du Vercors. Et puis, finalement, les résidences, elles se sont faites à chaque fois entre les différents parcs, sur des territoires partagés, différents. Et ça, c'est aussi un travail qui reste à mener pour peut-être aussi comprendre l'intention globale qui a pu être celle d'une recherche-création, c'est-à-dire qui s'est menée sur une thématique, mais dans différents parcs. Donc, il y a encore ce travail de maillage, je crois, qui est toujours à recommencer, en fait, de toute façon, pour essayer de faire du lien et de voir qu'est-ce qui finalement, à partir des spécificités évidemment de chaque parc, de chaque territoire, de chaque intervention de résidence création, mais aussi qu'est-ce qui a été reproduit, qu'est-ce qui a fait écho, qu'est-ce qui a résonné d'un parc à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une intervention à l'autre. Et ça aussi, ça c'est un travail qui reste sans doute à mieux articuler. Parce que c'est toute la difficulté, je crois, de ce genre d'ambition qui n'est jamais terminée en quelque sorte, mais qui est toujours sur le travail. Hein.
Voilà, le parc du Vercors aussi avec des perspectives, puis donc des champs, le champ des possibles, Marie-Odile, sur des aspects futurs, notamment on pense à des prochaines résidences aussi.
Voilà, donc là on est en plein dans une future la préparation d'une future résidence artistique qui sera plus une résidence, disons, médiation culturelle, de médiation culturelle, hein, et qui va dans le sens aussi d'objectifs qui sont doubles. C'est l'objectif de cette résidence artistique, ça va être d'abord d'aller auprès de socioprofessionnels, voilà, le lien avec les acteurs professionnels, les entreprises. Donc c'est une compagnie artistique qui pendant 2 ans va travailler avec le parc, avec 3 phases. Une première phase qui sera pour cette compagnie artistique d'aller sur des socioprofessionnels du tourisme, et de voir comment ces socioprofessionnels du tourisme réalisent des actions pour la transition écologique. Parce que sur notre territoire, on a des socioprofessionnels du tourisme qui sont en avance sur d'autres par rapport à cette transition écologique. Donc le but de cette résidence artistique et de cette compagnie d'artistes, ça va être d'abord d'aller les voir, ces socioprofessionnels, dans une première phase. La deuxième phase, ça sera une phase de création pour eux, donc là un peu en retrait. Ils ne seront pas sur le territoire, mais ils auront cette phase de création. Et la troisième phase, ça sera une phase justement de sensibilisation du territoire, des habitants, une sensibilisation aussi des touristes, parce que dans les publics, il y aura des touristes, à cette transition écologique qui est menée par des socioprofessionnels. Et cette sensibilisation, elle se fera à travers un objet culturel. Alors cet objet culturel, on ne sait pas ce que ça sera, ça pourrait être, on ne le sait pas. Du coup, c'est une résidence artistique qui va s'étaler sur une durée pratiquement de 2 ans.
Pour compléter, effectivement, donc là on est sur le... Par rapport au dispositif de résidence dont on parlait tout à l'heure, on est sur un double objectif, création et médiation, avec de la création qui sera le fruit de la collecte sur le terrain des artistes qui vont aller à la rencontre des socioprofessionnels du tourisme qui ont engagé dans un contexte de transition écologique, qui eux engagent leur propre transition touristique, c'est-à-dire comment ils font évoluer leurs pratiques, leurs offres touristiques et comment ils mettent différemment en tourisme le territoire en prenant en compte les changements globaux qui s'opèrent sur ce territoire avant d'être au pied du mur quelque part. Et puis l'idée est aussi donc de valoriser comment eux s'engagent, donner envie à d'autres de faire le pas, d'autres socioprofessionnels de faire le pas, d'aller vers un tourisme, une mise en tourisme différente du territoire et de montrer à des habitants et des touristes qu'il y a d'autres manières possibles d'être un touriste sur son propre territoire ou sur d'autres territoires. Donc les artistes collecteront, créeront, avec leurs médias artistiques. On fait des suppositions puisque la compagnie n'a pas encore été sélectionnée, les auditions ont lieu demain. Ensuite, la création aura pour objet justement de poursuivre la sensibilisation, la valorisation, parce qu'il y aura des restitutions sur le territoire qui seront accompagnées de temps de médiation, permettant ainsi de démultiplier l'effet recherché de sensibilisation. Donc voilà, ça c'est un peu l'axe qui a été souhaité et qui s'appuie sur la politique publique que porte le parc autour des enjeux de diversification touristique sur un territoire dont la transition écologique, les transitions sont les grands axes aujourd'hui qui oriente la charte. Et donc une action qui est soutenue par la DRAC et notamment le pôle action territoire et création qui nous soutient sur le plan financier et sur le plan technique.
Et donc les socioprofessionnels représentent une interface assez précieuse puisqu'ils captent beaucoup de public aussi. C'est un public très captif et d'autant plus résonnant pour les actions auprès d'eux. C'est un peu la volonté du parc aussi, de, à travers les professionnels, de sensibiliser le grand public qui vient en tourisme ou en week-end sur différents sites.
Voilà, le parc s'appuie sur son territoire et là, ce sont les socioprofessionnels du tourisme en fait qui vont nous apprendre quelque chose sur comment ils font cette transition écologique. Mais au lieu de faire des flyers, ah ben nous on a fait de l'isolation, ou nous on a mis en route des navettes, enfin, je sais pas, on peut tout imaginer, mais au lieu de le faire de manière raisonnable, on va le faire à travers un objet culturel. Voilà, c'est l'enjeu.
Comme quoi, hein, la culture est toujours interface de beaucoup de choses et d'appréhender le futur.
Justement, en résultat de ces ateliers résidences, est-ce que ça a pu peut-être enclencher aussi un désir du point de vue de la population de se lancer aussi sur des activités culturelles ?
Ce qu'il faut dire, c'est que ces actions de résidence artistique, quand même, c'est assez nouveau pour le parc. Je ne me trompe pas, Jamila. Sur ces résidences artistiques. Enfin, moi, je ne suis à ce poste d'élu à la culture que depuis 2020. Voilà. Et c'est assez nouveau, c'est une sorte d'expérimentation. On a expérimenté, Jamila l'a dit, sur plusieurs résidences et on continue. Alors après, pour faire le bilan vraiment de comment c'est perçu par les habitants, je pense que c'est encore un peu tôt. Et je pense que cette résidence que l'on va faire là sur 2 ans, là, on nous donnera plus de clarté quoi, sur comment c'est perçu par le territoire.
Nous allons conclure cette émission en vous remerciant vivement d'y avoir participé. Donc Marie-Odile Baudrier, je rappelle que vous êtes élue hein, vice-présidente du Parc naturel régional du Vercors, en charge de l'éducation, culture et participation citoyenne à vos côtés, Jamila Bazoge, responsable du service PNRV, chargée de mission d'éducation aussi, culture et participation citoyenne. À vos côtés, Anthony Péqueux. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir fait le crochet, parce que ça vous a demandé un sacré voyage aujourd'hui pour nous rejoindre. Vous êtes sociologue, aussi chargé de recherche auprès du CNRS et chargé de restitution du projet. Et Emmanuel Rousseau aussi, je remercie vivement, artiste intervenant sur les 3 massifs et dans le parc du Vercors. Et merci beaucoup également à Romain en technique et à mes côtés Romain de Radio Saint-Féréol, puisque c'est une combinaison à 3 radios pour ce plateau, avec à mes côtés Yves de Radio Diwa, Romain de Radio Saint-Féréol et donc moi-même de Radio Royan Vercors. Bien, merci donc pour les radios, et puis dire aussi que celle-ci compose la fédération Aura Auvergne-Rhône-Alpes FM, dont d'autres radios ont participé aux 6 résidences artistiques. Peut-être les avez-vous croisées, Anthony, qui avait sillonné des acteurs de radio ou...
Non. Ah oui, il y a déjà eu Radio Couleur Chartreuse. Il oui. Y a eu aussi, donc ça c'est, pardon, Parc Naturel Régional de Chartreuse. Il y a eu aussi un plateau radio qui a déjà eu lieu, je crois, Monde Ardèche, là où j'étais pas présent, et il y en a d'autres à venir. Au pile, là, je crois qu'il a déjà eu lieu également. Donc c'est voilà, ça poursuit son chemin faisant.
Voilà, chemin faisant avec la médiation des radios de la région. Merci à toutes et à tous.
Merci. Chemin.
Chemin.
Chemin. Faisant. Chemin faisant.
Chemin. T'es sûr que c'est le bon chemin?
Chemin.
Faisant.
C'était une émission de la Fédération des radios associatives d'Auvergne-Rhône-Alpes, dit Aura FM, en partenariat avec les parcs naturels régionaux et la DRAC d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci de nous avoir écoutés.